théologie scientifique sur le gouvernement divin par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont le 12 mars 2003.
J'avais vu les dernières fois le point de départ hein, jusqu'à la chute. Et c'est nettement une faute d'orgueil, hein. Une faute de curiosité animant l'orgueil. C'est la curiosité de ne pas pouvoir faire l'expérience d'une chose. Du fruit d'un arbre. C'est symbolique, c'est évident. Le péché originel n'a pas consisté en ça. Mais je crois qu'on montre bien là toute la différence hein, entre ce que représente cet orgueil qui insiste sur quelque chose de très matériel. Et les conséquences. Donc, la gravité de l'orgueil, la désobéissance à l'égard de Dieu. Et exprès, le point de vue est pris point de vue très grossier, un péché de gourmandise qui fait la catastrophe du monde. C'est affolant. Et je dis ça parce que c'est ce que disent les gens non-croyants qui lisent la Bible et qui par le fait même ne comprennent pas le symbole. Tout est symbolique. Hein. C'est parce que c'est tellement primitif. Et c'est vrai, si je prends matériellement, c'est stupide. Et donc, on ne comprend pas la sagesse de Dieu. Comment la sagesse de Dieu peut mettre en cause toute une race humaine à partir d'une faute aussi bête. L'orgueil d'un gosse qui veut à tout prix toucher au pot de confiture. Et le toucher au pot de confiture parce qu'il est défendu d'y toucher. Or, il y a un père de l'Église, j'ai oublié son nom, mais qui dit que chaque fois que l'Esprit Saint emploie un langage plus grossier, il veut cacher un mystère plus grand. C'est très joli ça. C'est un principe, non pas de la science exégétique, mais un principe de théologie symbolique. Quand même, c'est très grossier le point de vue de l'apparition de la femme par rapport à l'homme. Vous comprenez ? L'homme a dû faire un grand sacrifice. Il a offert une de ses côtes. On fait ce genre de sacrifice. On offre un rein à quelqu'un qui en a absolument besoin. Et comme on peut vivre avec un seul rein, on l'offre. On en a plusieurs des côtes. C'est pas la peine d'avoir tellement. Il a offert sa côte pour avoir la femme. C'est joli du reste, hein, comme symbole, c'est très joli. Les pères de l'Église ont beaucoup réfléchi là-dessus. Et ce serait intéressant de regarder tous les symbolismes, la signification de tous les symbolismes. Combien ce symbolisme est fort, c'est le corps de l'homme qui a fourni la matière au corps de la femme. Pour bien montrer qu'ils sont unis dans un corps. Et que le corps parfait, c'est l'union de l'homme et de la femme. Et c'est pas l'esprit, non, c'est le corps. Il y a là un langage très primitif, très simple, mais qui veut exprimer cette espèce de lien naturel entre l'homme et la femme, cette espèce de mémoire du corps d'Adam par rapport à Ève. Vous voyez, puisqu'on parle de la mémoire du corps, alors je voudrais savoir la mémoire du corps d'Adam qui a offert une de ses côtes à Ève. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'Adam ne peut pas vivre sans Ève. Et que Ève est le complément. La femme est le complément de l'homme. Les deux sont un dans une même chair. C'est au point de départ de l'écriture et nous le retrouvons dans le mystère du Christ qui reprend. Et je crois que c'est justement un symbolisme très simple, très, très primitif, de voir que Dieu s'est fait chirurgien. Il s'est fait chirurgien, puisque lui qui est créateur, il se fait chirurgien. Pourquoi ne crée-t-il pas tout de suite la femme indépendamment et à côté de l'homme? Il le fait pour l'homme, pour ne le fait pas pour la femme. Non, il a voulu compliquer. Et si Dieu a voulu quelque chose de plus compliqué, c'est pour nous enseigner quelque chose. Il aurait fait la femme à côté, et c'était deux êtres unis uniquement en Dieu et par Dieu. Tandis que là, il veut montrer que l'homme a payé son dû à la femme pour qu'elle soit le complément. Ish et Isha, les deux, la femme, c'est ça. Il y a, je crois, quelque chose de très profond, très divin, à voir dans ce fait que l'homme et la femme sont liés par Dieu dans la chair. Il y a une mémoire profonde, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mémoire du corps, qui demeure et qui est indépendante de notre bon plaisir. Pourquoi y a-t-il un lien entre telle femme, tel homme? Les philosophes ont cherché beaucoup ça. Ils ont des atomes crochus pour expliquer comment on est attiré par telle femme, par telle jeune fille, et pas du tout par une autre. Pourquoi? Et qu'est-ce qui explique ça? Rien ne l'explique, hein. C'est un donné. et ils vont se donner premier, c'est l'apparition de l'homme et la femme. Que Dieu nous montre d'une façon symbolique pour nous montrer qu'il y a un lien caché. Et c'est pas Adam qui l'a fait, hein. Il a été pris par une torpeur. Et Dieu s'est servi de cette torpeur pour lui prendre quelque chose qu'il lui avait donné et qui en appartenait donc plus à Dieu qu'à l'homme. Et Dieu a formé par là la femme. Mais je crois que tout repose, toute l'écriture de Dieu repose sur ce langage symbolique de l'homme et de la femme. Et c'est grand et c'est beau de voir que toute la vision sur l'homme et de la femme repose sur un symbolisme qui cache un amour, qui cache un amour qui provient d'une unité. Il y a quelque chose de commun. Et ce quelque chose de commun, Dieu s'en est servi pour faire deux personnes. Le péché est exprimé aussi symboliquement. C'est très précis. Ce premier dialogue, n'est-ce pas ? C'est vraiment une tentation. Le démon veut mener la femme par le bout du nez. C'est extraordinaire. Comme le démon est astucieux. Ne jamais arrêter l'interrogation. La réponse qu'il donne appelle une nouvelle interrogation, successivement. Mais c'est à partir de l'interrogation qu'il y a cette tentation. Et la femme succombe. Elle succombe seule, mais elle veut que l'homme soit avec elle. Et alors, vous avez l'union selon la chair et le sang. Vous avez l'union dans la complicité à l'égard de la recherche de la vérité. Double union entre les deux. Et double union dans le mal. C'est très curieux que le mal soit manifesté en premier lieu. C'est pas la victoire de l'homme sur le péché, la victoire de l'homme sur la tentation. Non, c'est au contraire la fragilité de la femme et la fragilité de l'homme à l'égard de la femme. Le démon n'a pas voulu attaquer l'homme, il a attaqué la femme. Il est plus sûr de son jeu. La femme a une faiblesse congénitale qui permet au démon d'agir avec cette espèce de séduction et de puissance. L'homme, à cause de l'amour qu'il a pour sa femme, l'amour qu'il a pour Ève, l'homme se laisse prendre. L'homme ne voit plus le sophisme qu'il y a dans la tentation et se laisse prendre. Oui, c'est très fort, hein, pour montrer comment la femme se laisse séduire, comment l'homme, à cause de l'affectivité qu'il a pour sa femme, fait qu'il la suit. Il ne raisonne plus. Il y a là, je crois, quelque chose de très important pour nous, de bien voir ces deux aspects. Voyons également Dieu qui intervient. Et Dieu intervient d'abord. Entendant le bruit de Yahvé qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, ils se cachèrent, l'homme et sa femme, et de devant Yahvé, Dieu, parmi les arbres du jardin, Yahvé, Dieu, appela l'homme. Donc, il a fallu que Dieu appelle l'homme. Le péché fait que l'homme n'a plus contact direct avec Dieu. Il s'est éloigné. C'est la première chose que le péché fait. C'est que Dieu n'est plus le familier qui entre directement en contact. Mais il y a une brisure. Et Dieu est obligé d'appeler. Et on appelle quelqu'un quand il est loin. Où es-tu? Et il dit, j'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin. Et j'ai eu peur. Caché par rapport à Dieu, tout de suite d'avoir peur de Dieu comme ayant offensé Dieu et donc en ayant peur que Dieu se venge, que Dieu punisse. C'est une peur quasi instinctive, c'est une peur plus forte que tout le reste. Et Dieu interroge. Il dit, qui t'a appris que tu étais nu? Alors, la première conséquence du péché, c'est, et si bien dit dans l'Écriture, c'est la honte de la nudité. Quand il n'y avait pas le péché, quand il n'y avait pas la brisure à l'égard de Dieu, le corps nu, l'un et l'autre le dépassaient et il pouvait être auprès de Dieu. Ceci pour montrer la sainte familiarité avec Dieu, c'est manifesté d'une manière très simple. Avant le péché, il n'y avait pas de honte en face de Dieu, il y avait une simplicité complète. On était en face de Dieu comme on est normalement. Et l'homme est lui-même, sans aucune honte. Il est, tout simplement. Oui, donc, c'est net que le péché qui éloigne de Dieu supprime la proximité avec Dieu et fait que la première activité humaine, c'est de se retourner sur lui-même, de voir sa nudité. Donc c'est le retour sur lui. Vous voyez, quand on essaie au point de vue philosophique de voir qu'est-ce qui est premier dans la connaissance, ceci est je suis. Ce qui est premier après le péché, c'est ce retour sur soi. Je suis, je connais. On a quitté la simplicité du regard direct. Et donc, ce regard sur soi, comme étant premier, est manifesté comme une conséquence de la faute, comme une honte. Ce n'est pas premier. Ce n'est pas premier naturellement, puisque c'est la conséquence d'une rupture à l'égard de Dieu. Le péché fait qu'on se voit en premier et on ne voit pas l'autre en premier. Si je regarde l'écriture telle qu'elle m'est montrée, telle qu'elle m'est donnée, c'est vraiment ça. C'est que il n'y a plus cette spontanéité toute simple, tout à fait directe, de voir autre. Et on se voit dans sa nudité. Donc on se voit dans son manque, dans sa pauvreté. Pose tout de suite la question, qui t'a dit, qui t'a appris que tu étais nu? Le péché a fait qu'au premièrement, il se regarde. Donc, c'est une conséquence du préjugé. Littéralement, hein, selon l'écriture, c'est une conséquence du péché d'avoir la subjectivité en premier lieu. En premier lieu, ce n'est pas la subjectivité. D'abord, en premier lieu, la subjectivité. Et quand on a la subjectivité en premier lieu, on voit d'abord qu'on est nu. Donc la nudité apparaît en premier lieu. Et on la voit dans cette attitude réflexive sur soi-même. Il faut essayer de bien regarder ce qui nous est enseigné par le premier péché. Et le fruit du premier péché, c'est se regarder. J'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu me suis caché. Il dit, qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas en manger? L'homme dit, c'est la femme qui l'a placé près de moi, qui m'a donné de l'arbre. Donc, la femme est celle qui a présenté le fruit. Et présenter le fruit en faisant que l'homme l'accompagne. Et j'en ai mangé. Il avait dit à la femme, qu'as-tu fait? La femme dit, c'est le serpent qui m'a dupé et j'ai mangé. Et il avait dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes de l'air. Alors, c'est aussi très significatif que le péché a comme conséquence première de cacher notre responsabilité et de la faire porter tout de suite sur l'autre. Et ceci est de commun entre le péché de l'homme et le péché de la femme. Dieu voit la coopération qu'il y a eu entre l'homme et la femme dans le péché. Il n'insiste pas sur est-ce que le péché de la femme est plus grand parce qu'elle a offert, elle a été complice. Non, il voit que l'homme et la femme sont unis dans la conséquence du péché, voire l'autre. L'autre, c'est le démon. Ça très net aussi les conséquences du péché, c'est qu'on a beaucoup de peine à se considérer comme responsable. On rejette tout de suite la responsabilité sur quelque chose, sur quelqu'un d'autre. La femme rejette la responsabilité sur l'homme. L'homme rejette la responsabilité sur la femme et la femme rejette la responsabilité sur le démon. Vous voyez, c'est très curieux. Dans la faute, c'est la femme qui est première, qui attire l'homme. Dans la responsabilité que Dieu regarde, c'est l'homme que Dieu regarde en premier lieu. Dieu sait très bien que c'est la femme qui a attiré l'homme. Et Dieu ne s'adresse pas directement à la femme. Il s'adresse directement à l'homme. Pourquoi ça? Parce que l'homme a autorité. Il a autorité sur la femme. Et c'est pour ça qu'il est doublement responsable. Subit l'influence de la femme. Et la femme d'avoir subi l'influence du démon. Il y a une espèce de retomber dans les responsabilités. Le péché fait perdre le sens d'être quelqu'un autonome, Le péché nous met tout de suite dans une situation d'être relatif à l'autre. Mais dans le mauvais sens, on n'est pas relatif au bien, on est la caricature. On est relatif à l'égard de celui qui nous tente. La supériorité du démon sur la femme, c'est d'avoir tenté la femme. La supériorité de la femme sur l'homme, c'est d'avoir tenté l'homme. Vous voyez, c'est l'inverse de la dignité et des responsabilités. Et c'est très frappant, ça. Parce que je crois qu'on peut dire le péché, ce qu'il a de plus terrible en lui, c'est de nous empêcher d'avoir la responsabilité. Il casse en nous cette autorité. C'est de regarder justement, nous sommes en face d'un exemple qui nous fait comprendre ce qu'est le péché en face de Dieu. Le péché en face de Dieu fait que l'homme perd toute sa dignité. Il devient le jouet de l'autre. Et la femme perd toute sa dignité. Il y a une dégradation. Et Dieu punit le plus coupable en premier lieu, le serpent. Il avait dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs et tous ceux. Sur ton ventre tu marcheras et poussière tu marcheras. Maudit sois-tu entre tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Sur ton ventre tu marcheras et poussière tu mangeras tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te sait. Visera à la tête et toi tu la viseras au talon. Et la femme dit, et à la femme il dit, je multiplierai ta peine et tes grossesses, et c'est dans la peine que tu enfanteras. Okay. portera ton désir, et lui dominera sur toi. Donc, conséquence du péché pour la femme, c'est d'être toute relative à l'homme, instinctivement. C'est je multiplierai ta peine et tes grossesses. C'est à ma peine que tu enfanteras des fils. C'est du côté de la procréation que la conséquence du péché se manifestera la plus. Vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son mari. Et l'homme, à l'homme, il dit, parce que tu as écouté ta femme, la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre de son épouse. Et j'ai mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet or. Ne mangera pas. Maudit soit le sol à cause de toi. Parce que Jésus insiste, hein, c'est la voix de ta femme, donc c'est le côté affectif. La voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre, l'exécution, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, je n'en mangerai pas. Maudit soit le sol à cause de toi. Dans la peine, tu t'en mourras. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ton retour au sol, car de lui tu as été pris. Car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. C'est à l'égard du travail. La femme, c'est l'immanence de la maternité. La douleur dans l'immanence de la maternité. L'homme, c'est dans le facturé, à l'égard de la matière. Il y a une espèce de lutte qu'il y aura. Alors que, normalement, il y a un ordre de la matière vers l'homme, et là, ce sera quelque chose qui se révoltera contre toi. Et l'homme appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle a été la mère de tout vivant. Il y avait vie à l'homme et à sa femme, des tuniques de peau, et les rangs revêtus. Et c'est très touchant de voir que Dieu lui-même, il y avait Dieu fit à l'homme et à la femme, des tuniques de peau, et les rangs revêtus. Donc, leur nudité, Dieu veut qu'elle soit cachée. Il avait dit, voilà que l'homme et comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, il ne faudra pas qu'il avance la main et qu'il prenne aussi de l'arbre de vie. Qu'il en mange et vive à jamais. Ah, de nouveau, la tentation que l'homme peut avoir. Et maintenant, il ne faudra pas qu'il avance la main et qu'il prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive à jamais. Donc, Dieu montre que cette tentation de demeurer toujours, d'échapper à la mort, ce sera la grande recherche de l'homme. Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive tournoyant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu interdit à l'homme de retourner au paradis. Et si Dieu met un ange, chasse l'homme et posta à l'entrée du jardin d'Éden les chérubins et la flamme du jour envoyé. Cela montre que l'homme, puisque rien n'est fait inutilement. Donc, si Dieu fait ça, c'est pour parer à la tentation de l'homme de vouloir revenir au paradis terrestre. Dans la mémoire du corps, il y a cette mémoire qui fait que tout le temps, nous voulons revenir au paradis terrestre. Mais la tentation dominante qui est soulignée par Dieu, c'est la tentation du retour au paradis terrestre. L'homme a cette tentation et toutes les hérésies, c'est ce retour au paradis terrestre. Nous portons ça en nous parce que nous avons vécu, quant à notre corps, de cela. Ce n'est pas notre âme, puisqu'elle est créée directement par Dieu. Elle n'a jamais été au paradis terrestre, notre âme. Mais notre corps a été dans le paradis terrestre. Et la mémoire foncière du corps, c'est ce retour au paradis. Je crois que ce petit passage est très important pour nous parce que ça nous aide à comprendre que toutes les hérésies, c'est ce retour au paradis terrestre. Et au fond, on est en plein dans cette hérésie. L'idéalisme, c'est un retour au paradis terrestre. Et de montrer que au fond, l'homme peut tout reprendre et doit tout reprendre. Et c'est très important de voir dans toutes les hérésies cette espèce de soif de retourner au paradis terrestre. Alors, nous avons à partir de ce moment-là, au point de vue du gouvernement divin, quelque chose de tout nouveau. Ce n'est plus Dieu qui est tout près de l'homme et de la femme et les choix. c'est Dieu qui les chasse. On est chassé du paradis terrestre. On est errant. Et errant parce qu'on ne voit pas de lieu. Il n'est pas indiqué de lieu pour Adam et Ève. Ils sont chassés du paradis terrestre. Et toute cette période de Cain et Abel, c'est en dehors du paradis terrestre. Donc, dans un lieu où l'homme ne trouve pas son lieu. Alors, ce qui est très étonnant, c'est de voir Cain et Abel qui sont chassés du paradis terrestre. Cain et Abel il y a quelque chose qui leur reste. C'est l'adoration à l'égard de Dieu. Alors, ça c'est très important à noter, puisque la grâce de justice originelle n'existe plus. Ils sont nus. La grâce est partie. Puis ils ont rompu à l'égard de Dieu. Mais cependant, dans leur nature humaine, ils sont purs. Ils ont péché, mais il y a encore la nature humaine qui est vraie. Et Adam et Ève, l'un et l'autre, adorent Dieu. Montre donc que la procréation n'a pas été arrêtée par le péché. L'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Cain. Et elle dit, j'ai naquis un homme de par Yahvé. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger, tandis que Cain cultivait le sol. La première distinction entre les fils d'hommes, la première distinction, c'est à l'égard de leur manière de travailler. C'est le travail, donc, qui est la première distinction entre les hommes. Abel fut berger, tandis que Cain cultivait la terre. Or, au bout d'un certain temps, Cain présenta des fruits du sol en oblation à Yahvé. Abel, de son côté, présenta des premiers-nés de son troupeau. Ainsi que de leur crainte. Yahvé porta ses regards vers Abel et vers son oblation. Mais vers Cain et vers son oblation, il ne les porta pas. Cain entra en grande colère et eut le visage abattu. La jalousie est premièrement une jalousie religieuse, fondamentale. Une jalousie religieuse. On ne dit pas, on dit simplement que les offrandes d'Abel sont reçues, les offrandes de Cain ne sont pas. Ça prouve que Abel offrait ses offrandes dans une pureté de regard très grand. Et Cain, non. Donc, première conséquence du péché. Rivalité entre entre des frères au sujet religieux.